Eh bien, bonjour à tous, hein. Tu vois, Valérie, il y a des enfants maintenant. C'est un peu plus dur au début du culte, mais après, ça se remplit. Ça va, les enfants? T'es mignon. Vous êtes timide ou quoi? Est-ce que ça va, les enfants? Dites-moi. C'est un petit peu mieux. Les adultes, regardez les adultes comme ils vont bien. Regardez. Les adultes, ça va? Ah, c'est autre chose. Hein. Bon, c'est bien, c'est les adultes qui doivent montrer l'exemple, donc ça va. On va continuer notre étude, on est presque sur la fin, sur revenir aux fondements, les fondements de la vie chrétienne, les fondements de l'Église. Donc je fais un petit rappel depuis qu'on est passé dans les Actes des Apôtres. On a d'abord étudié sur le livre de Néhémie, et puis on a vu ensemble ce qui se passe au tout début de l'Église. Dans les Actes des Apôtres, évidemment, on a souligné le rôle indispensable du Saint-Esprit, Saint-Esprit qui a été donné pour nous remplir et pour nous aider à être de nouvelles créatures, d'être quelqu'un d'autre. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas. Deuxième chose qu'on a vue, c'est le fondement de la croix. La croix où Jésus, on l'a chanté, on vient de célébrer le repas du Seigneur. Nous nous rappelons ce que Jésus a fait à la croix. Il est mort pour nos péchés, crucifié à notre place, mais il est ressuscité et il est vivant aujourd'hui. Amen. Et puis nous avons vu le fondement de la repentance aussi. L'importance, le point de départ de la vie chrétienne, c'est la repentance, c'est-à-dire avoir reconnu qu'on est pécheur et avoir manifesté un vrai désir à Dieu de changer de mentalité, changer d'état d'esprit. Devenir quelqu'un d'autre, on l'a vu avec l'aide du Saint-Esprit, bien sûr. Et puis là, on termine cette étude avec ce fameux verset du chapitre 2 des Actes, Actes 2, 42, où il y a cinq piliers de la foi chrétienne. Et on va parler du cinquième aujourd'hui, puisqu'on a déjà étudié les cinq autres. Le premier, c'était quoi? La persévérance, c'est bien. Il y a deux personnes qui ont suivi. Ensuite, deuxième pilier, l'enseignement. L'enseignement qui est donné par les apôtres à cette époque-là. Troisième pilier, la communion fraternelle. Ce qu'on a étudié la semaine dernière, communion fraternelle. Quatrième pilier, oui. La fraction du pain, ce qu'on vient de faire. Avec tout, je ne refais pas l'étude de la semaine dernière, ça prendrait trop de temps. Simplement se rappeler ces piliers. Et le dernier, les prières. Ça va s'afficher tout ça. Hein. Il persévérait donc dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Regardez les enfants. Vous avez un édifice avec cinq colonnes qui tiennent l'édifice. Et ces cinq colonnes, on les rappelle, persévérance, enseignement, communion fraternelle, fraction du pain et les prières. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Hier, nous étions réunis toute la journée pour notre week-end d'église. Nous sommes partis du principe que dans ce passage, il est parlé des prières. Qu'est-ce que ça veut dire, les prières? Il y a plusieurs possibilités. La plupart des commentateurs vont expliquer qu'il y a différentes manières d'établir une relation avec Dieu. La louange, l'écoute. Les demandes, les prières, enfin, ce qu'on réclame de Dieu, etc. Plusieurs moyens, la louange, ce qu'on a vécu ce matin, bien sûr. Hein, tout cela, c'est des choses qu'on peut vivre. Mais j'ai pensé qu'on pouvait aussi voir au travers de ce pluriel dans prière, deux dimensions de la prière. La dimension individuelle et la dimension collective. La dimension individuelle, on en parle très régulièrement. Avec ce fameux verset que vous connaissez dans Matthieu chapitre 6, verset 6. Ouais, il y en a qui connaissent, c'est bien. Entre dans ta chambre, prie ton Père qui est là dans le. Ferme la porte, prie ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui t'entend te le rendra. Hein, il y a cette nécessité d'avoir une communion personnelle, une relation personnelle. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on le répète. Nous sommes là, nous sommes pas là pour vous dire d'adhérer à notre religion ou de venir à l'église. Nous sommes là pour vous dire d'avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ. C'est ça qui change la vie de quelqu'un. C'est cette relation personnelle. Ce n'est pas le fait de venir à l'église. Si vous ne faites que venir à l'église, vous posez votre séance sur une chaise et vous repartez. Et c'est tout ce qu'il y a dans votre vie chrétienne. Vous n'allez pas changer, je vous le dis franchement. Il faut que la vie d'église vienne renforcer, donner un plus, on va le voir, à cette relation personnelle que vous vivez. Au commencement, on l'a vu hier, au commencement de l'église, tout a commencé par la prière. Jésus, alors qu'il monte au ciel, s'adresse à ses disciples et leur dit « Restez près de Jérusalem ». Et les disciples ont compris ce que ça voulait dire. Vous allez recevoir la promesse du Saint-Esprit. Les disciples sont allés directement dans un lieu où ils avaient l'habitude de se réunir. Et là, pendant 10 jours, ils ont prié le Seigneur. Et au bout du 10e jour, la promesse s'est accomplie. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ça, c'est le commencement de l'Église. Des gens qui se réunissent, qui prient. Et là, on rentre dans la dimension collective de la prière. Cette nécessité que les chrétiens, à un moment donné, se réunissent aussi, n'est pas seulement cette relation individuelle, mais qu'ils se réunissent pour prier ensemble, c'est primordial, on va le voir ce matin. Jésus a enseigné qu'il fallait prier ensemble. Et on a vu plusieurs passages, si vous voulez l'enregistrement, vous irez voir la sono, je ne vais pas refaire la journée d'hier, mais on a vu que Jésus, dans son enseignement, clairement, il parle des deux dimensions, la relation individuelle et la prière collective. Vous connaissez ce texte, là où 2 ou 3 sont réunis, en mon nom. Hein, il parle là de la prière collective. Et puis, on a vu aussi que dans sa vie personnelle, le Seigneur vit les deux dimensions aussi. On voit que régulièrement, il se met à l'écart pour prier seul. Et puis on voit qu'à des moments aussi, il prend ses disciples pour prier avec lui. Notamment, il avait un trio qu'il avait l'habitude de prendre avec lui, qui était composé de l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean et l'apôtre Jacques, le frère de Jean. Et on a terminé en voyant les bienfaits de la prière collective. Qu'est-ce que ça apporte ? Qu'est-ce que ça apporte ? On pourrait se dire, oh mais moi j'ai une très forte relation personnelle avec Jésus, je n'ai pas besoin de venir prier avec les autres. Ce n'est pas une obligation, bien sûr, rien n'est obligé. Hein. Mais c'est passer vraiment à côté de quelque chose. Et là aussi, vous pourrez prendre la cassette pour voir. La cassette. Eh oui, c'est le vieil homme qui vous parle. Vous pourrez prendre l'enregistrement. Je vais vous donner, les enfants, vous allez voir 2 images. Regardez la première. Qu'est-ce que vous voyez ? Alors, il ne voit pas. D'accord. Il y a beaucoup d'ivoiriens. Je vais avoir des problèmes. Alors, qu'est-ce que vous voyez, les enfants ? Qu'est-ce que tu vois, Jaden ? Tu vois du feu avec du métal. Alors, en haut, là, oui, effectivement, c'est du métal. Mais ça, c'est quoi ? Jean-Enoch ? C'est du bois. Donc, on voit un morceau de bois qui brûle. C'est simple, hein ? Cherchez pas des choses compliquées. 2e image. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit encore du bois qui brûle. Alors, on va regarder les 2 images en même temps. On va essayer de comparer les 2 images. C'est quoi la différence ? Alors lui, il est plus petit, lui, il est plus gros. Quoi ? Le feu, tu parles ? Il y a un feu qui est plus gros que l'autre, c'est vrai. Tu as raison. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces images ? Essayez de vous projeter, vas-y Jean-Enoch. Il y a plus de bois. Il y a une photo où il y a plus de bois que dans l'autre. Oui, normal, il y en a un où il y a un seul bois et il y en a où il y a plusieurs bois. Et alors, qu'est-ce que c'est la conséquence ? C'est la différence, le fait qu'il y ait plusieurs bois, le fait qu'il y ait un seul bois. Plus de chaleur. Exactement. Plus il y a de bois, plus il y a de la chaleur. On pourrait dire plus de lumière. Aussi. C'est plus joli, plus agréable à regarder. Etc., etc. On pourrait multiplier. Mais en fait, ces deux images, c'est l'image de la prière individuelle et de la prière collective. Il n'est pas question de négliger cette première image. Il y a du feu aussi, là. Le feu est là. Et il est suffisant pour un seul morceau de bois. Mais lorsqu'on rassemble tous les morceaux de bois, c'est une autre dimension. Je ne dis pas que c'est une dimension supérieure, c'est une autre dimension. La relation individuelle, elle a autant de valeur. Elle est même le point de départ. David nous l'a rappelé hier. Si vous venez ici, que vous priez et que chez vous, vous ne priez jamais, il y a un problème. Il y a une incohérence. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si on prie ici, c'est parce qu'aussi on prie chez nous et on a une prière individuelle. La Bible nous dit clairement que la prière collective doit faire partie de la vie d'un chrétien. Tous ceux qui me disent « j'ai pas besoin d'église », tous ceux qui me disent « j'ai pas besoin de venir prier avec les autres », alors je vous invite à prendre votre Bible et arracher plusieurs pages. Et oui, est-ce qu'on veut faire ce que la parole de Dieu dit ou pas ? Parce que la difficulté qu'on a, nous, c'est que on fait le tri. On prend les commandements qui nous intéressent et ceux qui nous dérangent. Et on arrive à se bâtir tout un raisonnement qui tient la route pour expliquer que ce n'est pas nécessaire. Ça s'appelle l'aveuglement spirituel. On est tous enclin à être aveuglé spirituellement à un moment ou à un autre. Il faut faire bien attention. J'aimerais voir avec vous, les enfants, l'importance de se réunir pour prier ensemble. Je ne suis pas seulement en train de faire la publicité des réunions de prière de l'Église. Prier ensemble, ce n'est pas seulement la réunion de prière du mardi soir. Déjà, si vous êtes dans une famille, que vous êtes plusieurs, à partir du moment où vous êtes deux, vous avez la possibilité de faire une prière collective. D'accord ? Il n'y aura pas un bout de bois, il y en aura deux. Déjà, il y aura plus de feu. D'accord ? Donc, si vous êtes en couple, priez ensemble. Si vous êtes un couple, priez. Priez ensemble. C'est nécessaire, c'est primordial. Si vous êtes une famille avec des enfants, vous devez faire quoi ? Vous devez rassembler votre famille et prier tous ensemble. Ouais, ok, les enfants, vous aimez ça ? Les enfants, ils aiment. Souvent, c'est les enfants qui rappellent aux parents, « Eh, on n'a pas prié. » Ça vous est jamais arrivé, les parents ? Toi, tu n'es pas un parent, dis pas non, toi. Et puis, c'est bien sûr aussi, pendant les gibes, qui c'est qui va aux gibes, là, dans l'église, les enfants ? Alors, les gibes, pour ceux qui ne fréquentent pas l'église régulièrement, c'est les groupes d'instruction biblique. Ça peut s'appeler le catéchisme ou l'enseignement des enfants. Qui c'est qui va aux gibes, là ? C'est tout ! Alors, tous ceux qui vont aux gibes, quand vous allez aux gibes, est-ce que vous avez un moment où vous priez ensemble ? Oui ? Eh bien, c'est bien. Vous vivez la prière collective. Et puis, il y a les réunions de l'église. Le dimanche matin, on vient de passer un moment à prier, là, tous ensemble. La louange, c'est une forme de prière. On a passé tout le début du culte à prier le Seigneur. Et puis lorsque on se réunit le mardi soir, également à 19h30, pendant une heure, on prie tous ensemble. Amen. Une première chose, on va voir trois choses rapidement. Une première chose qu'on remarque dans les Écritures, c'est qu'un chrétien a l'habitude d'aller à des réunions de prière. Réunion, ça veut dire qu'on est plusieurs. D'accord ? On regarde. Moi, je vous donne pas, j'essaie pas de vous argumenter, je vous donne juste la parole. Actes chapitre 1, verset 13, au début de l'Église. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Ça veut dire qu'il y avait un lieu où ils avaient l'habitude de se réunir pour prier ensemble. Et avant, ils le faisaient d'ailleurs avec Jésus. Là, Jésus est monté au ciel, donc ils y vont sans lui. Ils vont prier et c'est là que le Saint-Esprit va descendre sur eux. Actes chapitre 3, verset 1. Pierre et Jean montent ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait des heures où on montait au temple pour prier. C'était comme ça. Ça avait été institué Et c'était une bonne chose, une bonne habitude. Acte chapitre 12, verset 12. Pierre, après avoir réfléchi, se dirigea vers la maison de Marie. Pierre, il a été mis en prison parce qu'il prêchait l'évangile. Vous connaissez l'histoire, les enfants ? Quand Pierre il est en prison, qu'est-ce qui se passe ? Qui connaît l'histoire ? Qu'est-ce qui se passe quand Pierre il est en prison ? Dis-moi, Naïlis. Ouais, mais qu'est-ce qu'il y a eu avant que l'ange lui dise de sortir ? Un tremblement de terre, ouais. Vous vous rendez compte ? Pierre, il est en prison, tout le monde se dit, mais comment il va sortir de là ? Eh bien, Dieu, il provoque un tremblement de terre, la prison s'écroule, et Pierre, bon, comme il est un peu perdu, il ne sait pas s'il dort, s'il est réveillé, il faut qu'il y ait un ange qui lui dise, vas-y, sors, tu peux sortir. Et puis après, il se rend, regardez ce qu'il fait, il se dirige vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Donc les réunions de prière, ce n'est pas du tout dans la Bible. Hein. Vous avez remarqué. On n'a pas besoin d'y aller. Une deuxième chose qu'on remarque dans les Écritures. Un chrétien peut faire appel à la prière collective en cas de besoin. Ça, c'est une force, une richesse. C'est le Salomon dans le livre de l'Ecclésiaste qui dit qu'il vaut mieux être deux plutôt que d'être seul. D'accord ? Parce que si celui qui est seul tombe, il n'y a personne pour le relever. Si tu tombes et qu'il y a une autre personne à côté, il pourra te relever. C'est des choses basiques, toutes bêtes. Dans Actes chapitre 4, versets 23 à 24, Pierre et Jean, ils viennent d'être menacés par les autorités de la ville. S'ils continuent de prêcher l'évangile, ça va aller mal pour eux. Et regardez ce qu'ils font. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs, c'est-à-dire vers les autres chrétiens. Ils racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent la voix à Dieu tous ensemble. Amen. Ils élevèrent la voix à Dieu tous ensemble. C'est quelque chose. Je ne sais pas comment vous avez vécu le culte ce matin, mais moi, je me régale d'entendre les voix qui s'élèvent ensemble pour louer le Seigneur. Ben oui, c'est ça qui est beau. Alors je vis des bons moments tout seul avec le Seigneur, mais ça, c'est pas pareil. Et j'ai envie de vivre ça aussi. Ces moments où on est tous ensemble. Et je sais que ça réjouit le cœur du Seigneur. Il est écrit dans la Bible que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Dans Actes chapitre 20, on va voir les versets 17 et 36. Paul est en train de finir son dernier voyage missionnaire. Il se rend vers Jérusalem, où il sait que ça va être compliqué pour lui. Et il passe à Milet, c'est pas loin, pas trop loin d'Éphèse. Et donc il pense à faire avertir les anciens d'Éphèse pour qu'ils le rejoignent sur son passage, pour les voir, parce qu'il sait que c'est la dernière fois qu'il les verra. Et regardez, cependant de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse des anciens de l'Église. Et au verset 36, un peu plus loin, il partage avec eux. Et ensuite, après avoir parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. Amen. Paul, l'apôtre Paul, qu'on regarde tous en disant, le gars, l'apôtre Paul a eu besoin de ses frères et sœurs. Il a eu besoin de marquer un temps d'arrêt pour dire, vous allez prier avec moi. Et je crois que c'est aussi une marque d'humilité, de pouvoir dire, j'ai besoin de la prière de mes frères et de mes sœurs. Les enfants, quand vous avez des soucis, les enfants n'ont pas de soucis, bien sûr. À leur âge, il n'y a pas de soucis. Quand vous avez des soucis, ne restez pas seul. Et demandez à votre papa, votre maman, de prier avec vous. Ou si vous ne voulez pas le dire à votre papa quand vous grandissez ou votre maman, eh bien dites-le à quelqu'un de l'église, peut-être un de vos animateurs ou animatrices, peut-être au pasteur, peut-être à un copain de votre âge. Tu ne veux pas qu'on prie ensemble ? Amen. Cette prière collective, c'est une force. Josué était pas mal aussi, hein ? Non, bombe pas le torse, Benjamin, je ne parle pas du tien. Il est bien aussi, ce Josué. Josué, quelqu'un aussi, le niveau là, quand on regarde Josué, on dit, wow. Josué est allé combattre les Amalécites, et pendant qu'il les a combattus, il a demandé à Aaron et Hur de se placer sur la montagne et de prier pour lui. Amen. C'est important. Et croyez-moi, lorsqu'on prie pour... J'ai entendu des gens dire, ça ne sert à rien de prier pour les gens qui sont loin. Mais moi, je lis les récits des frères et sœurs d'église persécutée, et ils disent, on se sent porté par les prières. On se sent porté par les prières. Amen. C'est quelque chose qu'ils vivent. Et la prière, c'est un soutien, c'est une force quand on prie les uns pour les autres. Jacques, dans son épître, en parle et il dit si quelqu'un souffre, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église. Ça aussi, on le fait. Je me souviens, étant plus jeune, il y avait souvent l'onction d'huile dans nos églises. Aujourd'hui, vous savez, c'est le principe la vie privée. On ne partage pas la vie privée. Donc on fait une espèce de cloison totale sur nos problèmes. Et on ne veut surtout pas en parler à personne. Alors je le comprends tout à fait. Mais dans l'Église, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on se soutienne les uns les autres. Et pour ça, il faut que ça parte de faire confiance et dire voilà, j'ai besoin de prière. On n'est peut-être pas obligé de dire pourquoi. En fait, quand on fait l'onction d'huile, on n'explique pas à tout le monde le frère il s'est avancé parce qu'il a tel problème. Non. On prie ensemble, il y a quelqu'un qui a besoin d'aide. Et on prie pour lui. Ah, mais c'est tellement beau. C'est ça la fraternité, la solidarité. Amen. Je pense à Jésus lui-même. On arrive au sommet du sommet. Jésus qui dit à ses disciples, venez prier avec moi. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Je ne suis pas bien. Venez prier avec moi. Jésus. Waouh. Jésus, on sait qu'il était humble. Lui n'était pas là à se soucier du regard des autres. Quoi, Jésus? Oh ah ben, spirituellement, c'est pas ça. Hein. Ah là là, il gère pas ses émotions. Hein. Il n'a pas la foi. C'est pour ça que les gens ne parlent pas, en fait. C'est pour ça que les gens ne veulent pas parler. Parce qu'ils ont peur du jugement. Mais je crois franchement qu'on n'est pas dans une église comme ça et que vous vous sentiez libre de partager quand vous avez besoin d'aide. Ok ? Parce que c'est important d'être ensemble dans les difficultés des uns des autres. C'est Paul qui dit quand un souffre, tout le corps souffre. Amen ? Alors le problème, c'est que dans mon corps humain, si mon pied me fait mal, je le ressens tout de suite. Dans le corps de l'église... Si quelqu'un a mal, moi je ne le ressens pas. S'il ne partage pas, je ne peux pas le savoir, à moins que le Seigneur me le révèle. Mais ce n'est pas souvent le cas. Et c'est important qu'on puisse se dire, et Jacques le dit, qu'il appelle les anciens. Tous les programmes, tous les projets de l'Église doivent être portés dans la prière. Rien ne doit se faire sans la prière. Et si on enlève la prière du mardi soir... C'est la fin de l'Église, je vous le dis franchement. Merci au Seigneur pour les frères et sœurs qui sont fidèles tous les mardis. Parce qu'on porte dans la prière tout ce qu'on a à cœur et tout ce qu'on veut faire. Et c'est le point de départ sans lequel nous ne pouvons pas réussir dans nos projets. Si quelqu'un doute encore, j'aimerais les enfants, vous écouter bien ces témoignages. Vous donner trois témoignages rapidement de choses que j'ai vécues dans la prière collective. Premier témoignage, j'étais, il y a longtemps de ça, responsable jeunesse sur Albi. Je m'occupais du groupe de jeunes, je n'étais pas pasteur encore. Et vraiment, j'avais un fardeau sur le cœur parce que je ne voyais pas les choses avancer, c'était compliqué. Et puis, un jour, j'ai entendu parler d'un groupe de jeunes en Ukraine, à Kiev. Un groupe de jeunes qui se réunissait tous les samedis. Et tous les samedis, de 14h à 18h, ils jeûnaient et priaient ensemble. Et à partir du moment où ils ont pris cette décision, en quelques mois, ils sont passés de quelques jeunes à 600 jeunes. Donc ça m'a interpellé. Puis après, vous savez, l'esprit, il vous reprend, votre esprit vous reprend en disant, ouais, non, mais tu vas pas faire un copier-coller, c'est pas une méthode, il faut pas recopier les choses. Et c'est vrai, j'ai dit, non, non, tu vas pas faire ça. Ça, mais quand même, ça m'a travaillé. Puis j'ai juste dit aux responsables, le comité jeunesse qu'il y avait là, je leur ai dit, écoutez, est-ce qu'on ne peut pas, avant la réunion de prière, tous les samedis, c'était tous les samedis soirs, pendant une heure, se retrouver et jeûner et prier ensemble? On l'a fait. On l'a fait. On était 4-5 au départ. Puis petit à petit, les jeunes ont été motivés pour nous accompagner. On se retrouvait à une quinzaine. Et puis il y avait pratiquement tout le groupe de jeunes qui étaient là, en train de jeûner et prier avant les réunions. Et puis à un moment donné, bah, on a vu des jeunes arriver, des jeunes qui ont grandi dans l'église, qui sont convertis. On est passé en très peu de temps, d'une vingtaine de jeunes à 50 jeunes. Amen. Il n'y a pas longtemps, le 1er mai, on a fait les retrouvailles, 20 ans après. On s'est tous retrouvés. Mais là, on n'était pas 50, on était 60 alors qu'il en manquait la moitié, parce que tous sont mariés maintenant et ont des enfants. Et c'était des moments incroyables. Hein. Le Seigneur, il entend les prières. Deuxième témoignage, un camp d'ado. Je l'ai déjà raconté ici ce témoignage. Un camp d'ado où là, pareil, pendant tout le camp d'ado, il y avait 27 ados. Je me rappelle du chiffre. Hein. Pourtant, j'en ai fait des camps. Mais celui-là, je me rappelle. Il y avait 27 ados. Et à chaque fois qu'on faisait les partages, c'était sec. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. À part deux ou trois, il n'y avait rien. Et c'était un combat pour moi pendant tout le camp. Alors en plus, j'étais directeur, je m'occupais de l'animation. Vous savez, quand vous êtes dans un camp d'ado, ceux qui ont fait des camps. Pour vous tenir devant Dieu, c'est compliqué. Hein. Il vaut mieux vous tenir avant la colo, ce que j'avais fait, mais pendant, c'est compliqué. Et à 2-3 jours de la fin, j'ai pris les animateurs, je leur ai dit, je ne peux pas terminer cette colo comme ça. Donc demain matin, on va se lever de bonne heure. Au lieu de prendre le petit déjeuner, vous savez, les ados, le moment où ils sont le moins dangereux, c'est au petit déjeuner. C'est encore. Donc j'ai dit, ça va, c'est un moment où ils sont calmes. Donc j'ai parlé au directeur de la colo qui avait à côté. Je lui ai dit, est-ce que tu peux déléguer une ou deux personnes du personnel pour avoir un œil sur les ados quand ils viennent déjeuner? C'était petit déjeuner libre, ils venaient comme ils voulaient. Et puis au niveau des tentes, que ça se passe bien. Donc ils ont géré ça. Et nous, on est allés dans une pièce et on s'est mis à prier avec les animateurs. Le Saint-Esprit est descendu sur nous au point qu'on pleurait comme des enfants. On pleurait pour ces ados. On a pleuré vraiment. Le partage qui a suivi, 24 ados sur 27 se sont avancés à l'appel pour donner leur vie au Seigneur. Donc ne me dites pas que la prière collective, ça ne fait rien. Moi, vous pouvez m'expliquer tout ce que vous voulez. Moi, je sais ce que j'ai vécu. Et ça, c'est des choses, vous pouvez pas les gommer, les effacer. Et me dire, ouais, c'est une coïncidence, c'est un hasard. Dernier témoignage qu'on a vécu, vous allez me dire, là, il nous raconte ses trucs d'ancêtres, mais c'est plus comme ça aujourd'hui. On l'a vécu sur l'île Jourdain. L'île Jourdain, on a des réunions de maison. À une réunion de maison, vraiment, le Seigneur m'avait interpellé pour qu'on aille plus loin, pour jeûner et prier ensemble et vraiment porter cette implantation d'église devant le Seigneur. Ce qu'on avait, en fait, on portait ça de tout notre cœur, mais on n'avait jamais pris le temps de s'arrêter et de vraiment jeûner et prier. Je me souviens que ça n'avait pas été facile cette réunion. Ça avait été un peu compliqué de faire passer ce message. Et puis finalement, merci Seigneur, les Lillois étant spirituels, après un temps de discussion, on a été tous d'accord de le faire. On s'est mis à le faire, on l'a fait, et depuis qu'on a fait ça, on voit la main de Dieu d'une manière complètement différente. Des portes se sont ouvertes sur l'île Jourdain. On a des personnes, on a fait la distribution de traités sur le marché, c'est passé super bien, alors que les autres fois, c'était très compliqué. Et puis, on voit des personnes s'ajouter de partout depuis. On a des entretiens, des personnes qui veulent se faire baptiser, etc. Gloire à Dieu, je crois à la prière collective. Les enfants, croyez que quand il y a un problème, quand il y a quelque chose, si vous vous réunissez ensemble et que vous priez pour quelque chose, le Seigneur, il entend. Amen. Quand on travaille en équipe, quand c'est des problèmes personnels, bien sûr, on a la prière individuelle. On n'est pas obligé à chaque fois de se réunir. Hein. Je ne dis pas que le seul moyen, c'est ça. Non, dans ma prière personnelle aussi, j'ai vu des exaucements. Mais quand c'est quelque chose qui nous concerne à plusieurs, Là, je parlais du groupe de jeunes, on était plusieurs responsables, les ados, on était plusieurs, les journées, on est plusieurs. À un moment donné, il faut qu'on se mette ensemble. Et pour notre église, on peut prier tant qu'on veut et dire on veut le réveil, on veut que ça bouge. Si on ne vient pas ensemble prier, rien ne se passera. C'est tout. Et moi, je dis merci au Seigneur pour ceux qui viennent. Parce que même si on n'est pas tous là, le Seigneur, il nous entend. Amen. Mais je crois qu'il va se passer des choses parce que ces fondements, il faut qu'on les pose. Je termine sur le dernier point, les enfants. Un chrétien se renouvelle en louant le Seigneur avec ses frères et sœurs. Quand on se rassemble pour louer ensemble le Seigneur, on est renouvelé. Amen. Alors, on a vu une chose importante hier que je vais répéter ici. Quand je viens pour louer le Seigneur, ce n'est pas pour être renouvelé, ce n'est pas pour être béni. D'accord? Vous ne faites pas ça, vous. Eh si, on fait tout ça. On vient et on dit, ah, je veux que tu me bénisses, Seigneur. Non, on vient pour louer le Seigneur. Le centre, c'est lui, c'est pas moi. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Quand on se réunit, le centre, c'est Jésus. C'est Dieu, c'est pas moi. Mais si je loue le Seigneur, alors il me bénit. Je suis pas venu pour ça, mais il va le faire. C'est sûr. Si vraiment tu ouvres ton cœur au Seigneur, si tous ensemble on élève nos voix, on loue le Seigneur, on ressort, on est fortifié. Même les gens qui viennent pour la première fois, ils le disent. Eux, ils sont venus juste pour voir, ils ne sont pas calculés, Dieu est le centre, machin, ils viennent. Et ils me disent, oh, ben quoi? Ben on était tous ensemble et on louait le Seigneur. Et la présence de Dieu, quand on loue le Seigneur, elle descend sur nous. Et si la présence de Dieu, elle descend sur vous, si ça ne vous fait pas du bien, vous avez un problème. C'est obligé, ça vous fait du bien, la présence de Dieu. Il n'y a rien qui peut faire autant de bien. Amen. Après avoir chanté des cantiques, Matthieu 26, 30, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Ça, c'est juste après le repas de la Pâque. Jésus, avec ses disciples, avant d'aller à Gethsémané, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont chanté des cantiques ensemble. C'est un petit verset là, qui est là au milieu de ce long chapitre 26 et qu'on remarque pas. Mais en fait, Jésus, il a pris le temps de chanter à la gloire de son Père avec ses disciples. Et je pense que ça l'a aidé dans le moment qu'il vivait. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas, c'est Actes 16, priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les enfants, Paul et Silas chantaient et criaient les louanges de Dieu. C'était où qu'ils faisaient ça? Vous savez où ils étaient quand ils ont fait ça? Ouh, ils étaient à l'église? Ils étaient en prison. Oh. Je ne sais pas s'il y en a qui sont venus ce matin en disant, ah ouais, ben, c'est bon, les autres, ils louent le Seigneur, mais s'ils avaient les problèmes que j'ai, ils loueraient peut-être un peu moins. Non, ça ne vous arrive pas des fois d'être bloqué, pas arriver à louer parce que vous avez trop de problèmes? Moi, ça m'est arrivé, hein. Et Paul et Silas avec cette force de dire peu importe mes difficultés, peu importe ce que je vis, ils étaient victimes d'une grande injustice. Ça, c'est la pire des choses. Quand on est victime d'une injustice, on se bloque. On se bloque même avec Dieu. Alors que lui, il est pour rien. C'était injuste, c'était dur, ils ont souffert, ils ont pris des coups. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils louaient le Seigneur. Amen. Est-ce qu'ils ont eu raison de le faire? Eh oui. Ils ne l'ont pas fait pour ça, mais ils ont été libérés, délivrés de la prison. Et il y a eu même la conversion du geôlier derrière avec sa famille. Amen. Gloire à Dieu. Ça me fait penser à Jéricho. Les enfants, vous connaissez Jéricho? Jéricho, vous connaissez? Regardez, qu'est-ce qui s'est passé à Jéricho? Qu'est-ce qu'on voit sur l'image? Oh là là. Oh là là, les enfants, vous voyez rien ou quoi? Qu'est-ce qu'on voit sur les images? Jean-Édoc, le mur il s'écroule, on va dire la muraille là, parce que là c'est quand même. Hein. La muraille s'écroule, elle s'écroule pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce qu'ils ont fait le peuple d'Israël? Ils ont envoyé des bombes sur la muraille, ils ont inventé la catapulte, c'est ça? Stécie, ils ont loué Dieu, ils ont loué Dieu. Ils ont chanté et loué Dieu. Quand on chante et on loue le Seigneur, il y a des murailles qui tombent, des murailles qui s'écroulent. Amen. Amen. Gloire à Dieu. La louange, c'est bon. C'est bon pourquoi? Parce que c'est ce pourquoi nous avons été créés. Allez, je termine. Le rappel de ce qu'on a vu ce matin au travers des trois images. Un chrétien a l'habitude d'aller à des réunions de prière régulièrement. C'est l'image du feu où il y a plusieurs morceaux de bois, pas un seul. La deuxième image, c'est un chrétien peut faire appel à la prière collective en cas de besoin. Et puis la dernière, un chrétien se renouvelle en louant le Seigneur avec ses frères et sœurs. La semaine dernière, on a parlé de la communion fraternelle. La communion fraternelle, dans la communion fraternelle, il y a le fait qu'on se réunit ensemble. On se réunit ensemble. On se réunit ensemble à l'église, mais pas seulement à l'église. On se réunit à la maison, entre couples. Entre parents et enfants, on se réunit, on prie. Et dans sa maison, on peut aussi inviter des personnes pour qu'ils viennent prier avec nous. Oui ou non? C'est pas que l'église. On est capable de s'inviter pour faire un bon repas, pour regarder une vidéo, pour je sais pas quoi. Est-ce qu'on s'invite pour prier ensemble? Je vous encourage à le faire. Et j'encourage ceux qui le font déjà. Je sais que certains le font déjà. Je vous encourage à le faire. Réunissez-vous avec des frères et sœurs, et dites, allez, on va prier pour notre église, on va prier pour le salut des âmes, on va prier pour notre quartier, on va prier. Et oui, c'est ça les combattants du Seigneur. Amen. On se lève ensemble et on va remercier le Seigneur. Je prie que le Seigneur puisse lever dans cette église une armée d'intercesseurs. Vous connaissez la détresse qu'a vécu le Seigneur, qu'il a communiqué à son prophète Ézéchiel. Je cherche un homme qui se tienne à la brèche en faveur du pays. Et je n'en trouve pas. Je n'en trouve pas. Est-ce que le Seigneur va trouver des hommes, des femmes qui se lèvent pour prier et pour prier ensemble? Amen. L'avenir de l'Église en dépend. On repose les fondements et dans ces fondements, il y a la prière. Il y a les prières. Il y a ta prière personnelle, ce culte quotidien que tu as avec le Seigneur, mais il y a aussi ce temps où tu dois venir avec tes frères et sœurs pour prier. Il faut que, vous savez, les changements, ils ont lieu quand on change les choses dans nos vies. Si on réclame les changements et que nous, on ne change rien, il n'y a pas de changement. Mais si tu prends des décisions, alors tu vas avoir du changement. On n'a pas le temps, mais certains auraient pu témoigner de ce qui s'est passé dans leur vie depuis qu'ils viennent le mardi soir à la réunion de prière. Ça a changé des choses dans leur vie. Ça a changé des choses. Amen. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. C'est des choses qu'on connaît, mais Seigneur, tu sais nous rappeler les choses. Et Seigneur, je dépose cette parole maintenant afin que le Saint-Esprit fasse son œuvre dans les cœurs de chacun. Merci pour tous ceux que tu as conduits dans ce lieu ce matin. Merci parce que tu nous aimes tous. Tu n'es pas là à regarder celui qui prie plus que l'autre, celui qui est plus là aux réunions que l'autre. Ce n'est pas ça que tu regardes. Tu nous regardes comme tes enfants, comme tes créatures et tu nous aimes. Et ton désir, c'est de nous porter vers le haut, nous faire avancer, nous faire marcher de progrès en progrès. Et ton regard est posé sur chacun de nous, afin que là où nous en sommes, nous puissions franchir une marche de plus dans ce chemin qui nous conduit vers le ciel. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu gardes nos cœurs et tu permets que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux. Que toute la gloire te revienne, mon Dieu. Amen. Amen.